messieurs, bonjour. En ce début d'année, Vivre Ensemble vous propose de partir à la découverte de deux des projets qui ont été soutenus durant la campagne de l'Avent 2011. Alors avec moi pour en parler, j'ai Françoise Calonne. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise est responsable de l'atelier à leur atelier. On va revenir sur le nom de l'association tout à l'heure. Et Aline Strens. Bonjour Aline.
Bonjour.
Qui travaille à l'association Diogène. Alors, Françoise, d'abord, leur atelier, comment ça s'écrit ? Parce que c'est...
Alors, leur atelier, ça s'écrit avec une apostrophe. Le premier mot concerne l'horaire, l'heure, mais dans le sens pas du tout de l'heure pour se pressuriser, mais l'heure pour s'y mettre, pour commencer un travail de recherche et un travail de découverte sur soi et sur l'objet.
Alors, un atelier de quoi, justement ?
Alors c'est un atelier d'expression artistique qui a été créé par le service de santé mentale La Gerbe à Schaerbeek il y a déjà bientôt 20 ans et qui était considéré comme une initiative au sein de ce service de santé mentale, une initiative qui permet aux gens de développer un langage autre que celui de mise en consultation traditionnelle.
Et donc les gens viennent chez vous de façon très libre ?
Alors les gens viennent sans rendez-vous, sans entretien d'admission. L'optique de départ a vraiment été de permettre que ce lieu soit animé par des artistes professionnels et des personnes qui ne relèvent pas d'une équipe de soins, mais bien d'un univers artistique, de telle sorte qu'ils accueillent les personnes, pas du tout pour vouloir nécessairement les changer, mais pour les accueillir avant tout comme ils sont.
On reviendra à votre association tout à l'heure. On va faire connaissance maintenant avec Aline. Aline, c'est l'association Diogène. Que faites-vous ?
Et donc on fait du travail de rue avec les personnes sans-abri sur le territoire de Bruxelles. Voilà. Donc c'est une association qui existe depuis 1995. Et voilà, on est une dizaine de travailleurs.
Donc vous allez à la rencontre des sans-abri dans la rue.
Voilà.
Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur proposez ?
Ben, quand on les rencontre, on ne se présente pas tout de suite comme travailleurs sociaux. Donc la démarche, c'est d'abord d'aller faire leur connaissance et de les rencontrer, disons, en tant qu'hommes. On travaille avec ce qu'on est, avec la personne, tout ce qu'on a comme qualité ou comme défaut, disons. Et donc, on se met en lien, on essaie d'entrer dans une relation de confiance. Et puis petit à petit, c'est un travail sur le long terme, donc avec le temps, on essaie d'ouvrir des possibilités. Donc de montrer à la personne que toutes les portes ne sont peut-être pas fermées. Et on essaie de rompre un peu cet immobilisme dans lequel ils se trouvent souvent un petit peu prisonniers. Et donc voilà, on travaille avec leurs ressources aussi. Ça veut dire que certains ont des droits, d'autres pas. Enfin, on va travailler avec leurs possibilités à eux. Et donc bricoler avec aussi ce que la société peut leur offrir. Donc essayer d'ouvrir des portes qui sont... Voilà, qui peuvent avoir, leur ouvrir un autre avenir, quoi. Mais c'est tout doucement, c'est à leur rythme. Et on est toujours en invité sur leur territoire, sur leur terrain. Donc on va bien sûr essayer de pas forcer des changements. Enfin, on va leur laisser le temps de venir. Quoi.
Oui, j'imagine qu'il faut parfois un certain temps pour approcher la personne.
Oui, bien sûr. Ouais. Des fois, en quelques mois, ça peut être le seul chose qu'on va gagner, c'est d'arriver à la faire se déplacer pour boire un café. Enfin, c'est des choses des fois très simples, mais qui peuvent prendre le temps, parce que c'est le temps du lien, c'est le temps de faire confiance,
Voilà déjà un point commun entre les deux associations, c'est le temps, puisque Françoise l'a dit, à leur atelier, les gens ne sont pas justement pressés par le temps, ils viennent quand ils veulent, à la différence peut-être d'autres services de centres de jour où il y a un suivi beaucoup plus serré peut-être.
Oui, en soi, dans le réseau psychomédico-social, ce qui est le plus courant, c'est des structures qui sont appelées les centres de jour et qui ont comme condition d'admission de passer par un certain processus vis-à-vis de spécialistes psychiatres avec un programme de soins et un délai dans le temps. Tandis que chez nous, étant donné que ce lieu a été créé exclusivement sur un label culturel, ça le laisse beaucoup plus libre de permettre aux gens de venir vraiment en fonction de leur désir de créer, de leur désir de rencontre.
Et ils viennent par quel biais ? Ils arrivent par quel canal chez vous ?
Ils viennent par le bouche à oreille et par le réseau psychomédico-social. Donc comme ce lieu existe déjà depuis 20 ans et qu'il développe de plus en plus des moments de témoignage et d'interaction avec le champ social et social et culturel, il commence à être un peu plus connu. Et donc de ce fait-là, de plus en plus, le lieu de de rencontres que l'on espère être le plus ouverte possible, donc pas uniquement non plus réservée à quelqu'un qui serait nécessairement dans une expérience psychiatrique lourde, mais des gens aussi qui ont eu éventuellement une expérience là-dedans et qui ont pu se relever et aller vers d'autres horizons, mais qui malgré tout ont besoin encore de structures de soutien ou d'échanges plus particulières comme un lieu comme ça.
Et cette ouverture à tous les publics, ça fonctionne ou c'est encore à faire ?
Alors ça a déjà fonctionné, ça dépend des expériences. Par exemple, nous développons des projets vidéo dans le cadre desquels il y a vraiment des échanges comme ça très différents avec des personnes qui contribuent au scénario et aux équipes de comédiens, on va dire, uniquement par intérêt, par souhait de rencontrer des gens différents. Et donc là, c'est pour nous une grande réussite de pouvoir créer des situations de création et d'échange qui permettent aux usagers de ce lieu de se retrouver dans un lieu le plus métissé possible et dans un lieu d'échange authentique, d'expérience, de pensée, de... Voilà.
Aline, les personnes sans-abri, c'est quelque chose qui interpelle notre société. On est tous concernés parce qu'on en rencontre tous dans la rue. Est-ce qu'il y a un profil type du sans-abri ou pas ?
Maintenant, je dirais que c'est quand même très hétéroclite, en fait, comme public. Donc, chaque personne a un peu son histoire. Mais on peut aller dire quand même... par exemple, on dit qu'il y a un tiers du public sans-abri qui a une problématique de santé mentale lourde. Donc, avec un diagnostic psychiatrique vraiment bien établi. Donc ça veut dire que voilà, les problèmes de santé mentale sont quand même fort importants.
Et qui est la cause la conséquence du fait qu'il est dans la rue ?
Ça, c'est l'œuf et la poule. C'est quand même... les conditions de vie, bien sûr, dégradent la santé mentale des personnes, mais il y a quand même souvent déjà des antécédents. Bon, ça, c'est à chaque personne voir un petit peu comment ça se passe. Mais je trouve aussi que par rapport à ces diagnostics lourds, on peut dire aussi qu'à côté, il y a toute une série de gens qui ont quand même des capacités mentales un petit peu restreintes, disons, par les conditions de vie, par l'alcoolisme aussi sur le long terme. Et donc on trouve très fréquemment des pathologies comme Korsakoff, par exemple, donc, où la mémoire à court terme est atteinte. Donc la personne pourra raconter son enfance très, très bien, mais ce qu'elle a mangé à midi, elle ne sait plus le dire. D'accord. Ça veut dire que le temps est restreint au quotidien.
On va continuer à parler de tout ça après une première pause musicale. Je vous propose d'écouter Solancy qui chante Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la yuta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio al corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
Voilà, vous l'avez reconnu, c'était Morane qui interprétait Gracias a la vida en 1999 avec Solancy. Françoise Calonne, je reviens vers vous donc, pour votre association Leur Atelier. Aline parlait tout à l'heure des problèmes de santé mentale des sans-abri. Est-ce qu'il y a un profil aussi dominant parmi les gens qui viennent chez vous dans leur histoire, dans leur origine sociale ou,
Non, je pense vraiment que la maladie mentale et le décrochage psychosocial, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Depuis l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte, il y a vraiment toutes les possibilités imaginables aux gens d'à un moment, pour une raison ou pour une autre, avoir décroché, avoir perdu pied.
Est-ce que beaucoup des personnes qui viennent chez vous sont touchées par la précarité économique ? Est-ce que c'est quelque chose qui...
Ben ça c'est clair, c'est quelque chose qui évolue avec le temps dans ce sens-là, ça c'est certain.
Parce qu'on ne peut plus travailler, parce que...
C'est sûr. C'est... Encore dernièrement, nous avons été confrontés à ça, des personnes qui se trouvent au fil des ans dans une impasse d'un point de vue ressources qui nous interpellent à ce sujet-là. Et dans ce contexte, en fait, le fait que cet atelier soit établi au sein d'un service psychomédico-social, ça nous permet aussi, à nous en tant qu'artistes, de passer la main à un moment de façon plus facile, quoi. On a à portée de main, donc au sein du service de santé mentale La Gerbe, une équipe accueil, qui est l'équipe qui a d'ailleurs fondé cet atelier, et qui travaille sans rendez-vous, et qui donc... peut recevoir, au moment où cela se passe, des personnes qui seraient en plus grande difficulté ou qui se poseraient des questions plus concrètement sociales. Et ça permet aussi aux artistes de pouvoir, eux, garder vraiment leur place d'artiste et offrir autre chose à ces personnes sans qu'elles soient nécessairement perdues dans la cité, quoi. Mmh. Elles ont vraiment une possibilité d'accrochage là, à de multiples niveaux.
Vivre Ensemble visite les projets sélectionnés avant de les choisir. Et la personne qui a visité le projet m'a dit, à leur atelier, les gens m'ont dit que c'est le seul endroit où on ne se sent pas comme un malade, on se sent accueilli simplement comme une personne. C'est important pour vous, ça ?
Ah oui, c'est vraiment essentiel. Ça a été l'esprit dès le départ, dès la fondation de ce projet, donc que ce projet soit animé par des artistes et sans qu'il y ait nécessairement une direction ou un droit de regard de la part d'un psy ou d'un directeur, où il y a une confiance accordée à ces personnes artistes et qui ont une sorte de fraîcheur comme ça dans l'abord de ces personnes. dans le sens où elles sont là pour créer et pas nécessairement pour aller fouiller ou chercher le pourquoi du comment ils sont là.
Une relation d'égal à égal. En
fait. Voilà, vraiment, une relation d'égal à égal. Et d'ailleurs, quand j'ai proposé en 2004 de démarrer tous ces projets vidéo que nous réalisons maintenant chaque année, c'était aussi dans cet esprit-là, dans un certain esprit de décloisonnement au sein même de cet atelier, de décloisonnement entre l'animateur et l'animé. Donc vraiment, cette recherche qui est un partage là entre humains et avec bien sûr des ressorts de chacun, ressorts de l'artiste en tant qu'artiste ou en tant qu'aussi simplement personne humaine, mais qui ressurgit aussi sur chacun des participants, je pense, cet esprit-là. Et du fait que nous acceptons les gens sans fil d'attente, sans limite au niveau du groupe, on est bien évidemment assez débordé. Et par rapport à cette situation-là, on voit qu'il y a des sortes de prises de relais de participants les uns vis-à-vis des autres, pour nous prêter main forte, pour ne pas laisser une personne en attente de quelque chose trop longtemps. Et je pense que c'est possible aussi du fait qu'il y a cet esprit-là à la base du projet.
Une grande liberté.
Voilà.
Aline, comment ça fonctionne chez vous? Il y a donc des travailleurs de rue et puis il y a aussi un service, j'imagine, dans des bureaux où on peut recevoir les gens et assurer un suivi.
Non, on ne reçoit pas les gens en fait. Donc on est tout le temps...
Uniquement dans la rue.
Enfin, dans la rue, oui. On a des bureaux, bien sûr, mais là, on a nos petits dossiers et puis on a 2-3 ordinateurs. Il n'y a pas grand-chose à voir.
Et donc, également, à partir d'un certain moment, j'imagine que vous orientez les gens vers un CPS.
Ouais.
Vers un service.
Oui, bien sûr. Le travail de rue, c'est vraiment un travail de passeur, disons. Donc on fait des ponts en fait entre ce milieu de la rue et les institutions qui sont normalement censées accueillir ce public, mais vers lequel les personnes ont des fois difficile à aller. Quoi. Donc on fait des accompagnements un petit peu tout azimut, quoi, bien sûr.
Et vous travaillez en réseau avec d'autres associations aussi qui travaillent dans la rue, je pense aux infirmiers de rue par exemple, vous les connaissez, vous travaillez avec eux.
Oui, bien sûr, oui. Ouais.
Et ça se passe comment?
Ça se passe bien, mais sur le terrain, des fois, c'est difficile à aller. Quand on est trop de travailleurs de rue sur un même terrain, ça ne va pas non plus. Mm-hmm. Donc, c'est important de, un petit peu essayer de donner les bonnes bases, une collaboration. Voilà, ça se fait différemment avec chaque association. Voilà, il y a beaucoup de travailleurs de rue, il y a aussi beaucoup de maisons d'accueil, il y a d'autres choses quoi, qui existent. Je pense que ce qui est important, c'est la richesse du secteur, en fait, c'est de pouvoir offrir plein de facettes qui permettent à une personne d'accrocher à un endroit ou à un autre.
Oui,
donc
ça.
Si ça ne marche pas d'un côté, ça peut marcher à un autre.
Si
et les gens
font
aussi leur expérience, en fait. Des fois, ça peut être négatif avec une maison d'accueil, ça peut marcher avec une autre. Donc c'est,
il y a encore beaucoup de gens qui ne trouvent pas de lit pour la nuit, qui restent dans la rue.
Il y a des gens qui ne veulent pas non plus rentrer dans tous ces dispositifs d'accueil et qui demandent à accéder tout de suite à un logement. Donc ça c'est il y a des gens qui ne veulent pas en fait profiter de tous ces services qui existent. Et voilà, il y a aussi le fait que tous ces services existants mettent quelquefois la barre un petit peu trop haut, donc mettent des contraintes pour accéder, donc disent bon par exemple tu peux rentrer dans la maison d'accueil mais tu ne peux pas sentir l'alcool. Et donc ça impose en fait déjà un soin soi que la personne n'est pas encore prête à faire avant d'être accueillie.
C'est pas aussi libre que leur atelier. Voilà, on va faire une deuxième pause musicale avec Alain Souchon et Petite à tomber.
Petite à tomber. Petite à tomber. Petite à sans petit B. Au pied du piéton. Une âme est sous ses cartons. Petite à tomber, à quoi as-tu succombé? Petite à vie pas sucrée, au petit tas de secrets. On dirait que le ciel est nerveux, que le soleil se sent morveux. On dirait que le ciel a peur d'eux, que le soleil se s'emmerde. Petite amie là, sans tatami, sans matelas, une odeur de cendre, une vie sans valeur marchande.
Voilà. voilà, Alain Souchon, Petit à tomber, une belle chanson qui parle des sans-abri. Nous revenons à nos deux invités, Aline et François. Je vais leur demander maintenant de réagir sur ce que l'autre a dit, parce que je pense qu'elles ne connaissaient pas leurs associations, après les associations de l'autre, l'association de l'autre avant. Donc voilà, Aline, vous avez entendu ce que Françoise a dit sur cet atelier de création. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais en fait, moi, j'en avais déjà entendu parler. Ah, et voilà. Je pense que c'est un bon endroit où je pourrais accompagner des personnes, en fait, parce que... Pour toutes ces conditions d'accueil en fait facile, ça c'est chouette, c'est quelque chose que nous on aime bien évidemment, avoir un accueil inconditionnel en fait, de prendre la personne comme elle est.
Oui, vous disiez justement dans les centres d'accueil de nuit, il y a des conditions et que c'est parfois dur pour les personnes.
Oui, voilà. Ouais. Donc nous on prend aussi la personne comme ça, en fait on travaille avec qui elle est, donc c'est chouette de trouver des associations qui font un bas seuil de la même façon. Et aussi je pense que ça travaille sur un domaine où on a aussi peu d'endroits vers quoi renvoyer les gens, parce que quand on arrive à les motiver pour changer leurs conditions de vie, enfin quelquefois il y en a qui rentrent en logement, il y en a pour qui vraiment la situation change grâce à notre accompagnement, mais il reste souvent que quand ils arrivent dans leur petite chambre, ils sont fort seuls entre quatre murs, et qu'il faut quand même reconstruire un sens à l'existence, parce que sortir du sans-abrisme, c'est pas seulement retrouver un logement, bien sûr, c'est reconstruire, donner un sens à la vie, et trouver une place quelque part. Quoi. Et donc voilà, ça peut être un endroit, je pense, où les gens pourraient trouver ça.
Ou envoyer les personnes. Et Françoise, au sujet de l'association d'Aline, Diogène.
Oui, je pense que vous travaillez encore en amont de nous, je pense. Ouais. Et quand je dis que cet atelier, en fait, il est fréquenté par des personnes qui n'y vont que parce qu'ils le souhaitent, portées par leur propre désir, parfois j'entends que quelqu'un de la famille d'une personne schizophrène, encore récemment, me disait « Oui, mais elle n'arrivera jamais jusqu'à vous. » Et donc je pense que c'est important de développer aussi des projets comme le vôtre, qui vont vraiment chercher la personne là où elle est. Et je pense que d'ailleurs, dans le cadre de la réforme de la psychiatrie à l'heure actuelle, il y a la création d'équipes mobiles qui vont vraiment encore plus loin dans l'initiative d'aller rechercher la personne là où elle est. Quoi. Et voilà, donc c'est clair que ça pose la question de la mise en réseau de ces différents projets et du fait que chacun ne travaille pas sur son petit îlot séparé. Et donc je pense que ce genre d'initiative est vraiment bien pour permettre aux gens d'échanger et de se connaître et de connaître tous les points de relais qui peuvent être offerts aux personnes qui fréquentent ces différents lieux. Quoi.
Voilà, c'est une des missions de Vivre Ensemble, c'est de mettre les associations en réseau. Vous allez recevoir un subside de Vivre Ensemble suite à la campagne de 2011. Il va servir à quoi ?
Alors il va servir à deux choses. Il va servir notamment à soutenir une exposition que nous allons réaliser de début mai à fin août, à la Porte de Halle, ici tout près donc. Cette exposition s'appellera In and Out, Light and Load, dans l'esprit du travail que nous réalisons avec nos usagers depuis plus d'un an maintenant, autour de la question de l'ouverture et de la fermeture, du repli, du dévoilement, de l'ombre et de la lumière. Et donc cette thématique a été un peu définie pour entrer en dialogue avec le lieu qui nous accueille, c'est-à-dire la Porte de Halle, donc cette idée de la porte, et aussi par rapport à l'esprit de notre initiative qui est de permettre aux personnes qui aboutissent chez nous de retrouver un réseau, un lieu d'échange et d'ouverture.
Ok, on en reparlera, on l'annoncera certainement en temps voulu. Aline, rapidement, l'argent de Vivre Ensemble a servi ou va servir à quoi chez Diogène ?
Donc, il est en cours d'utilisation, disons. Donc il y a eu une soirée qui a été organisée le week-end dernier dans une paroisse, en fait. Et donc c'était pour informer les personnes sur la situation des Roms. Donc on a une collaboratrice qui est d'origine Rome dans l'équipe et elle travaille plus particulièrement avec ce public. Et donc voilà, elle a fait toute une soirée d'informations, de rencontres, en fait, pour expliquer un peu pourquoi on voit ces dames Roms avec leurs enfants dans la rue, ici à Bruxelles. Et il y aura aussi une brochure qui va être bientôt publiée, enfin qui est en cours d'élaboration.
Eh bien, on en reparlera certainement dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, déjà, on arrive au bout de cette émission. On aurait encore pu continuer à parler longtemps. Mais l'horaire est l'horaire. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt sur RCF.